Vous êtes toujours en direct de la station B, en rediffusion sur Radio Pulse, ou peut-être que vous nous écoutez sur la chaîne YouTube du WIP. Nous sommes sur le gros live 4 qui porte sur la culture geek. Et nous allons désormais passer à la prochaine émission d'auditoire partagée qui porte sur la sensibilisation à l'usage du numérique.
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
C'est un oiseau ?
Non, c'est un avion !
Non, c'est le gros live.
Le gros live 4.
Spécial culture geek.
En direct de la cité de chantier.
Et en duplex depuis le café des images.
De 18h à 22h
sur Station B.
En rediffusion sur Radio Pulse.
Et vous êtes toujours sur Auditoire Partagé. Avec moi, on a de nouvelles têtes autour de la table. On a Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
De quoi tu vas nous parler vite fait ?
Du numérique par rapport aux enfants, les précautions, voilà.
D'accord. Et toi, bonjour Alexandre.
Bonjour.
De quoi comptes-tu nous parler Alexandre ?
Alors je vais vous parler du hameçonnage. Qu'est-ce que c'est ? Vous verrez.
Qu'est-ce que c'est comme mot ? Et bonjour Iris, je crois que toi tu interviens dans la chronique de Valérie, me semble, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je fais la voix.
Et je vais aussi intervenir avec ma petite chronique à moi. Donc on va quand même rester un petit peu sur la culture geek avec l'usage qu'on a d'internet. Et moi je voulais vous parler un peu des liens sociaux sur internet. Donc quand on pense social sur internet, on pense rapidement aux réseaux sociaux. Et vous aurez sûrement tous un a priori dessus. C'est néfaste, ça éloigne les gens ou encore c'est génial. Moi je garde contact avec ma famille à l'autre bout du monde. Et vous avez vos raisons de penser ça, hein. Je suis pas là pour vous faire changer d'avis. Mais je voulais quand même en parler de cette manifestation humaine du besoin de partage. C'est parfois compliqué de trouver des gens qui ont la même passion autour de soi, mais avec Internet, tout le monde est autour de soi. Vous avez une passion pour le modélisme, cette activité qui consiste à monter des modèles à taille réduite, que ce soit des voitures, des avions ou parfois même des figurines de personnages issus d'univers fantastiques. Vous avez cette passion, mais tout le monde autour de vous change de sujet dès que vous en parlez. Et bien vous trouverez un tas de gens sur Internet qui seront plus à l'écoute et qui partageront leurs astuces de colle, de peinture ou leurs maquettes favorites. Le réseau social Reddit est le parfait exemple. À chaque fois que je me découvre une lubie pour un jeu vidéo un peu vieux, je sais que je peux trouver une communauté soudée et passionnée sur la catégorie correspondante sur Reddit, qui sera parfois plus à même de m'aider sur une mission en particulier que les magazines ou les articles de l'époque. Les possibilités de communication avec Internet sont gigantesques, et il ne faut pas attendre longtemps avant que les jeux vidéo puissent se jouer en ligne, au début en petit comité sur des jeux vidéo comme Doom, Unreal Tournament ou encore quelques années plus tard Counter-Strike. Si ces noms ne vous parlent pas, ce sont des jeux de tir en vue à la première personne, bien souvent abrégés en FPS pour First Person Shooter, où les joueurs et joueuses s'affrontent dans des arènes parfois en chacun pour soi et parfois en équipe. Même si au début on parlera plutôt de parties en local, c'est-à-dire sur le même réseau internet, bien souvent dans un cybercafé, chacun devant son écran, mais dans une salle remplie de gens qui partagent un moment de jeu, parfois convivial et parfois dans une certaine animosité. Au début des années 2000, des jeux massivement multijoueurs apparaissent tels que Ultima Online, Dark Age of Camelot, Final Fantasy XI ou encore World of Warcraft, pour le plus connu d'entre tous. Des jeux avec des milliers de joueurs et joueuses connectés en même temps, où tous les profils peuvent se croiser, que ce soit cet adolescent français en pleine campagne sur l'ordinateur familial et sa connexion super lente et limitée à quelques heures par jour, à cette mamie technophile qui dépense sa retraite dans ce qui peut se faire de mieux pour sa seule et unique occupation, sans avoir à se préoccuper de faire bugger le téléphone familial. Des liens forts se créent parfois même entre ces passionnés à l'autre bout du monde, allant même jusqu'à des mariages, alors que pour la plupart, ils ne connaissent même pas le vrai prénom de l'autre personne, mais seulement son identité sur Internet, traduit par un ou plusieurs pseudonymes. Une façon pour certaines personnes de briser leur timidité, d'être une personne un peu différente dans la vraie vie, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est d'autant plus facile quand sur un jeu vidéo, on incarne déjà un personnage qui bien souvent ne nous ressemble pas physiquement. Une identité qui peut parfois prendre une place assez importante, de laquelle on peut s'inspirer pour son identité dans la vraie vie. Mais je sais que si autour de cette table, Valérie ou encore Iris se mettent à m'appeler par mon pseudo, je vais ressentir une gêne, parce que autour de cette table, je ne suis pas mon identité internet, je suis Maxence. Même si vous ne jouez pas vous-même, vous pourrez regarder des gens jouer à votre place sur une plateforme de vidéo en direct, telle que Twitch ou encore YouTube, et communiquer avec la personne qui diffuse ou les autres personnes qui regardent. Un super moyen pour découvrir un jeu dont on n'a pas forcément les moyens de s'offrir, ou de se faire un avis avant de se le procurer, ou parfois juste d'échanger sur le jeu en question, de voir une façon différente d'y jouer, qu'on n'avait pas pensé, d'aider une personne qui découvre un jeu avec des mécaniques parfois complexes à aborder. D'ailleurs, je parle de jeux vidéo, mais des gens diffusent parfois aussi de la musique, de l'art, du montage de Lego. Et enfin, pour m'éloigner un peu du jeu vidéo, Internet, c'est aussi un moyen de s'exprimer assez librement, tant qu'on respecte quand même la loi en matière de discrimination. J'ai par ce moyen, sur le réseau social Twitter, pu lire des témoignages de personnes transgenres, non-binaires, noires ou d'autres minorités à qui on coupait la parole constamment sur les plateaux TV, si on daignait les inviter, et qui récupèrent ce droit à la parole sur Internet. Une belle leçon de vie et de morale quand on vit dans une bulle médiatique et personnelle assez fermée. Pensez notamment à ces personnes isolées socialement qui ressentent une gêne vis-à-vis de leur identité de genre, mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Quand d'un coup, sur ces réseaux sociaux, des personnes expriment cette même gêne et savent mettre des mots sur ce malaise ressenti. Vous mettez à la fois des mots sur votre gêne, mais par la même occasion, vous trouvez un moyen de briser cette solitude. Et avec des gens qui partagent votre ressenti et qui pourront vous partager tout un tas de ressources utiles pour vivre votre vie du mieux possible. Attention bien sûr à éviter de retomber dans une bulle trop fermée dans laquelle vous oubliez que d'autres personnes différentes vivent autour de vous. Les personnes isolées étant souvent plus à même d'être manipulées. Et ça, c'est un sujet que je voulais laisser à Antoine s'il était présent. Normalement, il était censé vous parler du complotisme Internet, mais malheureusement, il est absent. Donc en tout cas, faites attention à quoi, sur quoi vous tombez sur Internet, pour faire un peu résumé. Et c'est un peu tout pour moi.
Merci beaucoup pour ton témoignage, Maxence. Peut-être qu'on peut se faire une petite pause musicale, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, après un long test comme ça, je pense qu'on peut se faire une petite pause.
Effectivement, et en plus, ce n'est pas un hasard, on va écouter Ada, qui vient de sortir un EP là justement aujourd'hui. Ada, ça s'écrit H-A-D-A, une artiste normande, même cannaise. Et j'en profite parce qu'il y a Louis qui est à la régie son en ce moment, juste en bas, qui a participé à ce projet. Donc voilà, on s'écoute Ada.
Il avait l'air très haut. Et du coup, j'avais. Heureusement que j'avais le truc genre un peu.
We do not make mistakes there. We'll be right back.
Et on est retour sur le plateau d'Auditoire Partagé pour le Gros Live 4 jusqu'à 22h dans la cité de chantier du WIP à Colombelle, en direct sur Station B, sur YouTube et en rediffusion sur Radio Pulse. Donc toi Valérie, je crois que tu voulais nous parler de prévention, il me semble.
Voilà, tout à fait. Après ton intervention, où tu as su mettre en valeur les avantages du net, nous allons parler un autre tour, Iris et moi. Il est vrai que grâce à Internet, WhatsApp et Messenger, nous pouvons garder un lien social avec notre famille et nos amis, comme tu l'as si bien dit. Par exemple, ma grande fille partie vivre à Montréal avec son mari et ses enfants a mis en route WhatsApp sur le portable de maman, âgée de 84 ans, veuve, afin de maintenir la communication avec sa grand-mère. Et effectivement, grâce aux appels vidéo qu'elle lui fait, le moral de maman est meilleur. Elle voit ses arrière-petits-enfants grandir, courir, rire, et le lien n'est pas rompu, la vie continue. Donc nous allons vraiment parler des enfants et du numérique avec Iris. Les écrans étant partout aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils sur leurs usages afin de mieux accompagner les enfants en contrôlant l'accès, le temps et l'âge approprié. Rebonjour Iris. Connais-tu la fameuse règle 3, 6, 9, 12 à cet effet?
Oui, c'est celle du psychiatre Tisseron.
Oui, tu t'en souviens?
Oui, je m'en souviens bien. C'est pas d'écran avant les 3 ans, pas de console de jeu avant 6 ans. Et après, je sais.
Et pas d'Internet avant 9 ans. À partir de 12 ans, Internet, mais avec prudence.
Oui, c'est ça. Facile et clair à retenir.
C'est pour ça qu'il est bon de le rappeler. Il me semble que tu avais oublié.
Et pour le temps hebdomadaire devant un écran, que conseille-t-on?
On conseille pas d'écran avant 3 ans ou au maximum 5 minutes par jour. De 4 à 6 ans, maximum 20 minutes. De 7 à 10, 30 à 45 minutes. Et de 10 à 12, 1 heure maximum.
D'accord. Et à partir de 12 ans, qu'est-ce qu'on conseille ?
L'idéal serait, je dis bien l'idéal, serait de ne pas dépasser 2 heures par jour, tout compris bien sûr tablette, ordi, télévision, etc.
D'accord. Et pourquoi en fait ? Quels sont les risques majeurs pour la santé ?
Parce que ces limites permettent de réduire l'impact des données numériques sur la santé de nos enfants.
Comment ça ?
En suivant ces conseils, l'enfant garde un rythme naturel, en accord avec son développement tant physique que psychologique.
Ok, mais quand l'adolescente arrive, comment ça se passe ?
Donner des limites devient difficile, effectivement. Oh oui, c'est pour ça qu'il est important de parler avec l'enfant tout jeune, lui enseigner la prudence, lui parler des dangers du net, des écrans, lui donner des limites.
Et oui, c'est ça l'éducation, amour, autorité sur une balance.
Oui, l'équilibre que nous essayons tous d'avoir avec eux, nous apprenons nous aussi chaque jour, nous aussi les parents, à tenter de se faire obéir avec amour, façon de parler.
Et quelle aide les parents peuvent-ils trouver sur Internet, justement ?
Ben justement, il y a un site, le site institutionnel, proposant des conseils et explications qui s'appelle internetsanscrainte.fr en minuscule.
Et ce site peut vraiment aider les parents ?
Oui, et aussi en agissant auprès des jeunes enfants grâce à séries animées Vince et Lou.
Ce site a plus de 10 ans au moins, c'est toujours d'actualité ?
Tu as raison, il est toujours d'actualité. Il leur apprend à se protéger contre les mauvaises rencontres en ligne, par exemple. Et en passant par les dessins animés, c'est toujours plus facile auprès des enfants d'agir.
Et c'est vrai que c'est à nous, les adultes, de leur enseigner la prudence et l'écart entre le virtuel et la réalité.
Oh oui, encore et toujours. Rappeler les consignes de sécurité du net, réfléchir avant de publier, ne pas tout dire. Attention, photos, mots de passe, sécuriser ses comptes, utiliser des pseudonymes, etc.
Oui, d'ailleurs, Alexandre va nous expliquer un peu ses consignes tout à l'heure.
Oui, il a fait un condensé de tout ça, super.
Pour terminer, avant de lui laisser la parole, Valérie, comment conclurais-tu cette discussion ?
Tout est question d'équilibre. Nous sommes les exemples pour nos enfants. À nous de les accompagner sans oublier de partager aussi des loisirs familiaux, sans écran nécessaire au bien-être. Pour conserver le lien social, éviter l'addiction, source de problèmes de santé à tout niveau.
Merci beaucoup Valérie et, merci beaucoup Valérie et Iris.
Merci,
Iris. C'est pas facile à dire à la suite. Et oui, comme tu disais, pour rester dans le thème, il y a Alexandre qui voulait nous donner des conseils pour l'hameçonnage. Est-ce que si ça parle à des gens d'ailleurs, ce mot déjà
want to serve delicious meals for your family, you don't say ham, you say spam.
You don't say ham, you say spam. Spam is real spice ham. You don't say ham, you say spam. Spam is real spice ham. You don't say.
Et oui, effectivement, vous l'avez reconnu, ou peut-être pas, c'était le jingle d'une vieille pub commerciale pour un produit qui s'appelait le spam. Et aujourd'hui, je vais vous parler de spam, de hameçonnage. Alors, écoutez bien. Alors, pas besoin d'être un geek hein, pour le savoir. Bah, dès que vous vous connectez à Internet, à partir du moment où vos appareils sont connectés, il y a des menaces Qui c'est qui a jamais entendu les termes virus ou spam ici? Je pense que tout le monde.
On connaît.
Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au hameçonnage, ou le phishing en anglais, et comment s'en prémunir. Et là, normalement, vous devez me demander qu'est-ce que c'est le hameçonnage.
Mais qu'est-ce que c'est le hameçonnage, Alexandre?
Le hameçonnage.
Alors, pour résumer, c'est une méthode utilisée par des personnes malveillantes.
On peut dire ça comme ça, je pense.
Oui. Pour récupérer vos infos perso ou professionnelles, des données bancaires, des mots de passe, votre carte d'identité, en passant par des mails, des SMS et même des conversations privées sur les réseaux sociaux. En fait, hameçonner, si vous faites un peu de pêche, ben, c'est attraper un poisson. Et de la même manière, qu'en fait, quand vous cliquez sur un lien spécifique d'un email, vous vous retrouvez entre guillemets ferré comme un poisson. Et comme le pêcheur utilise des appâts différents pour vous hameçonner, bah, pareil, la personne malveillante, bah, elle utilise plusieurs appâts différents. Ça peut être des menaces, des offres, des mensonges, enfin plein de trucs dont je vais vous parler. Qui s'est jamais fait avoir ici?
Je me suis déjà fait pirater aussi.
Pas de cette façon-là, moi, ça va.
Donc, on va commencer un petit peu les conseils. Alors, premièrement, c'est le plus basique. Ne cliquez jamais sur des liens qui proviennent de contacts que vous ne connaissez pas. Si vous êtes sur un ordinateur, il y a une petite astuce. En fait, vous pouvez survoler le lien avec la souris juste avant de cliquer et vous pourrez voir où l'adresse pointe, en fait, où l'adresse du site pointe. Donc, quelques exemples. Par exemple, Robert Dupont, il m'envoie un message privé sur Facebook. Il me dit « Ah, clique sur ce lien !» Ou alors, je reçois un SMS d'un numéro inconnu du type « C'est votre livreur, cliquez ici pour savoir où en est la commande. » Ou il y a un inconnu ou une entreprise que je ne connais pas qui m'envoie un email avec une offre et il faut cliquer sur le lien pour bénéficier. Alors, est-ce que vous avez eu des exemples, vous aussi, concrets dans la vie?
Oui. De mails. J'ai déjà eu des mails de Chronopost pour me dire « Attention, votre colis n'est pas arrivé », alors que j'ai rien commandé. Mais quand je l'ai commandé, des fois, c'est inquiétant.
Ouais, c'est plus courant, ça.
Oui, vous avez remetté votre adresse ou quelque chose. Vous payez même des fois, forcément, pour avoir les infos bancaires.
Oui, c'est ça. Donc, deuxième grand conseil, méfiez-vous des imitateurs. Alors, en fait, les personnes malveillantes, comme on dit, ils se font passer pour des entreprises, des organismes que vous pouvez connaître. Donc, par exemple, votre banque, les impôts, l'assurance maladie, Pôle emploi... un magasin, donc vous avez la carte. S'il y a des liens dans leur message, bah, bien sûr, cliquez pas. Et les appâts, bah, ils sont divers. On vous demande de redonner vos mots de passe identifiants pour soi-disant les réinitialiser. On vous demande de payer par carte bancaire une somme qui serait due en évoquant une soi-disant taxe ou un retard de paiement. Envoyez votre RIB, envoyez une copie de votre carte d'identité, donnez-nous votre numéro de téléphone. Autre astuce, vérifiez les adresses de sites envoyés en faisant attention aux anomalies. Alors, ce qui peut être plus sécurisant, mais pas toujours gage de ne pas se faire avoir, c'est qu'il y ait un S ou HTTP de la barre d'adresse.
HTTPS, du coup.
Voilà, HTTPS ou le petit cadenas sur vos navigateurs pour indiquer ce site est sécurisé. Bon, c'est pas dans tous les cas.
Parce qu'il y a le canal dans la barre d'adresse pour être plus précis, il me semble.
C'est ça. Méfiez-vous des inversions ou des ajouts de lettres dans le nom du site. Par exemple, ajouter un E à .gouv, enfin des trucs comme ça. Et si vous n'êtes toujours pas rassuré, pour vérifier la véracité de ce qui est demandé dans les messages, bah, allez toujours directement sur les sites officiels en les tapant dans la barre d'adresse de votre navigateur sans passer par les liens proposés dans leurs messages. Soit un email, un SMS ou autre. Et en cas de doute, vous pouvez aussi chercher le numéro officiel des organismes et les appeler directement. Ne répondez jamais à aucun numéro inconnu, même s'ils indiquent soi-disant qui ils sont. Et troisièmement, grand conseil, n'ayez pas peur des menaces. Certains messages peuvent paraître menaçants du style « si vous ne payez pas, on vous ferme votre compte. Si vous ne donnez pas ces infos, on va divulguer ça aussi. Nous avons des vidéos compromettantes à votre sujet. » Donc, vous pouvez les signaler en tant que spam s'ils n'ont pas déjà été filtrés par votre messagerie. Et la plupart de ces menaces ne sont pas sérieuses. Donc, la majorité des messageries possèdent un système de tri automatique qui les range dans les spams. Donc, voilà. Donc, sur les messageries des réseaux sociaux, ne cédez pas non plus, même si la personne aurait des images de vous, bloquez-les simplement. Ne démarrez pas de conversation avec des numéros et contacts inconnus. Voilà, on a terminé. Bon, ces conseils sont basiques. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, que vous êtes victime d'une situation particulière de piratage, bah, vous pouvez toujours vous rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr.
Tout attaché à cybermalveillance.
C'est ça. Et il y a la sécurité, le HTTPS. Et, ou appeler le site, le service du gouvernement Info Escroquerie, 0805 805 817. Et si après tout ça, vous n'êtes pas rassuré, bah faites appel à un geek.
Merci beaucoup, Alexandre. Et bah faites attention sur Internet, oui, comme il disait. Je crois que juste après, nous, on passe à Marc, qui avait une chronique sur l'intelligence artificielle. Il me semble,
tout à fait. Je vais lire la lettre d'un auditeur.
Bon, on te met quand même un petit jingle, il me semble.
Il me semble.
La tête à côté du corps, seul un robot parle encore.
Écoutant, comme à l'accoutumée, mon émission favorite Auditoire Partagé, je tombais sur un débat concernant l'intelligence artificielle. Si quelques lueurs émanant d'un auditeur chevronné pouvaient éclairer cette controverse, je serais comblé. Je me souviens d'un professeur de français qui nous expliquait que l'intelligence, c'était savoir lire entre les lignes. Après consultation du Gaffio, l'énorme dictionnaire latin-français de mon père, il apparaît que l'ego se voit attribuer 3 pages de sens, d'où émerge plutôt l'acception « cueillir ». Inter, quant à lui, signifierait « parmi ». De lire entre les lignes à « cueillir parmi », les portes de l'intelligence s'ouvrent à l'analphabète. Artificiel, quant à lui, signifierait « fait par art ». Art étant entendu comme savoir-faire de l'artisan, quoi qu'on date généralement la naissance de l'art, de l'ornementation des objets domestiques façonnés par l'homme, comme armes, poteries, céramiques. Car souvenons-nous que la spécificité de l'animal humain reste par la préhensibilité du pouce qui fait de la main un incroyable outil, susceptible d'en créer beaucoup d'autres, et par l'accroissement de la capacité cérébrale consécutive à la station debout, la possibilité de concevoir, avant de les fabriquer, les outils nécessaires. Pour résumer, n'ayant ni la carapace du rhinocéros, ni les possibilités de fuite de l'oiseau, l'homme, par l'évolution, se voyait attribuer la main et le cerveau pour créer les artefacts nécessaires à sa survie. Donc, en développant une prédisposition embryonnaire de l'animal à créer des outils ou des habitats comme les nids, l'homme devait asseoir sa domination sur la planète entière. Toutefois, on peut se demander si le perfectionnement continuel d'armes toujours plus effroyables, sans parler de toutes les nuisances accompagnant le développement de la société industrielle avancée, relève encore de l'intelligence. En effet, la raison nous montre que le progrès technique aidant l'ensemble de l'humanité pourrait satisfaire ses besoins tout en vivant en bonne intelligence, sans jeu de mots, ce qui est loin d'être le cas. Sinon, l'intelligence artificielle s'opposerait-elle à une intelligence naturelle ? Une intelligence naturelle supposerait un créateur, à tout le moins une volonté créatrice. Par bonheur, cette question épineuse a été magistralement traitée par Henri Bergson dans son chef-d'œuvre « L'évolution créatrice, prévoir un tube de Doliprane ». Si j'ai bien compris la pensée de l'intervenant durant l'émission, qui s'émerveillait de voir un logiciel transformant un gribouillis en un dessin hautement stylisé, c'est la part d'aléatoire et d'imprévu qui créait la fascination, qui exerçait ce processus. Et aussitôt, je pensais à Nono. Nono est le robot qui tond la pelouse chez ma mère. Maman adore son robot. Il ne se met pas tout d'un coup à aboyer comme un con, ni ne se ramène de souris à la maison. Nono ne fait pas de saleté. Il est utile. Son seul défaut est qu'il ne tond que si le terrain est droit. C'est plaisir de le voir crapahuter, vaisseau dérisoire dans le sillage duquel les oiseaux, comme l'avait remarqué mon père, se pressent pour se goberger des vers qu'il leur déterre. Les oiseaux aiment bien Nono. Tout le monde aime Nono. En revanche, personne n'aime les araignées. Pourtant, quiconque a observé ces petites bêtes suspendues au bout de leur fil et construisant des édifices 50 fois proportionnés à leur taille, répugne à détruire ce labeur titanesque et opiniâtre. Je vois une de leurs toiles s'arc-boutant à l'extérieur de ma fenêtre et résistant vaillamment à la forte brise de ce soir. Celle-là même qui fait se frétiller les feuilles d'un arbre magnifique, resplendissant de toutes les heures de l'automne. Il est chatoyant. Alors, tandis que, comme le dit le poète, le soleil se noie dans son sang qui se fige, se fait jour la seule vérité. L'intelligence et l'amour ne font qu'un.
Merci Marc, je crois que les méninges chauffent un peu dans la salle et chez les auditeurs et auditrices. Mais rassurez-vous, vous avez tout le temps pour encaisser ça pendant la pause musicale que va nous proposer Thomas. Et nous, on va reprendre juste après. Non, j'ai pas de... Alors une pause musicale. Nosman, alors attendez. Qu'est-ce qu'il proposait ? Nosman Soleil.
Nosman, c'est un rap
venu à l'open mic il y a un mois ici, qui a participé au Grand Live 3, et là il a sorti un son effectivement qui s'appelle Soleil. Donc voilà, je vous laisse vous les délecter de cette musique très normande et locale là.
Mes couplets c'est de la dynamite, j'ai la puissance de dynamite. T'as touché le fond, croisé le Titanic, je fais que des combats titanesques. Immortel comme Wesker, on me demande où est-ce que je suis. Moi je me demande où est-ce que, et pour trouver quel chemin suivre. Je suis dans un monde parallèle où je choisis mes paramètres. Quand mon bonheur bat de l'aile, je pleure pas comme une madeleine. Si je m'enferme, que quelqu'un vienne me délivrer. Battre le fer, ça s'apprend pas dans les livrets. Je vois mes mènes pour m'enivrer, je déploie mes ailes pour l'éviter. Mes démons me donnent des idées, je cherche pas à les éviter. Je prends le temps de m'occuper de moi. S'aimer soi-même, ça peut prendre des mois. Écrire des aventures, ça me fait du bien. Dans un combat difficile de savoir on est combien. Je pense plus à la veille ni au lendemain. Quand je me réveille, j'ai encore mes deux mains. Je prends soin de mon sommeil et de ma faim. Je prends le soleil du haut des gradins. Certes, mon corps est dégradé, bien plus que les dirigeants. Leur âme se sont égarés. Moi, je suis dans ma diligence. Je ferai plus jamais allégeance. Man, plus les années passent, plus je visite différents espaces. Pas loin d'avoir trouvé ma place. J'ai une main dans le feu et l'autre dans la glace. Moi j'ai pas sauté les classes, à 16 ans je suis parti au taf. Y'a que les pierres et mon corps que je casse. C'est mes propres coups que j'encaisse dans le casque. Je prends le temps de m'occuper de moi. S'aimer soi-même ça peut prendre des mois. Écrire des aventures ça me fait du bien. Dans un combat difficile de savoir on est combien.
Et pour cette fin d'émission, on commence déjà à s'approcher de la fin. Nous avons Marion et François qui devaient être présents, mais ils nous avaient préparé quand même une interview d'une troupe de théâtre pour la pièce AFK. On va s'écouter ça tout de suite.
Le fait d'être geek, c'est marrant parce que déjà, il y a 20 ans, c'était entre guillemets une insulte, les geeks, ce qu'on appelait les nerds, etc. Maintenant, c'est devenu très, très à la mode. Enfin, c'est bon ton de dire qu'on est geek avec tout le phénomène d'ailleurs des blockbusters américains autour du Marvel, etc. Bref, mais du coup, oui, moi, c'est vrai que je me sens geek, pas un spécialiste. Je connais des gens qui, eux, pourraient en parler pendant des heures, ont décortiqué des BD ou des films jusqu'à en dresser des théories politiques très complexes. Moi, je ne sais pas si je suis de ce niveau-là, mais. Et ouais, c'est une culture à laquelle j'avais envie de rendre hommage parce que je pense que dans tout ce qui est sous-culture, enfin, ou culture populaire ou contre-culture, on pourrait dire, il y a toujours en fait les germes de nouvelles esthétiques qui vont arriver plus tard, qui vont devenir dominantes, enfin, peut-être pas dans le bon sens toujours d'ailleurs. La science-fiction, par exemple, c'est un truc qui me passionne pour ça, la SF. Parce que la SF, vous lisez n'importe quel livre de SF, même si au niveau littéraire il est mal écrit, très souvent il raconte quelque chose sur le monde qui est hyper intéressant sur le fond, quoi. Donc je trouve que la culture geek, c'est ça aussi, quoi. Voilà.
Et toi, Samuel, est-ce que tu es un geek aussi ou...
Je pense pas. Je sais ouvrir un ordinateur et puis voir ce qu'il y a dedans, mais voilà, après, je suis pas... voilà. Après, dans tout ce qui est, je dirais, culture pop, j'étais pas dedans non plus. Moi, ce que j'aime bien là, dans la pièce, c'est que Guillaume, il en parle d'une façon développée, en fait. Voilà. Effectivement, moi, j'ai... De la façon dont il en parle, moi, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. et du coup, c'est vachement intéressant, ouais, effectivement.
D'entendre le mot Batman ou Wolverine sur scène, déjà, au théâtre, c'est pas quelque chose de commun, en fait. On n'en parle pas souvent. Et du coup, dans cette pièce qui s'appelle AFK, c'est ça, vous essayez d'allier, du coup, culture pop et théâtre, c'est ça ou...
Ouais, alors en fait, c'est pas que culture pop, parce qu'au départ, le sujet de départ vraiment du spectacle que j'avais envie d'écrire, c'était autour du numérique et des dangers, un peu des pièges du numérique, parce qu'ils existent. Hein. Et puis en fait, au fur et à mesure, plus je me suis mis à écrire, plus je me suis dit, en fait, j'avais pas trop envie d'axer ça sur la vision dystopique, sur la critique de la société, l'aspect politique, les dangers que ça pourrait présenter au niveau du contrôle, de la surveillance de masse, etc. Je trouvais ça un peu froid, enfin un peu en plus pédagogique, peut-être parfois, et le théâtre, c'est pas l'endroit de la pédagogie, c'est l'endroit des questions, quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, ce que ça ça raconte, c'est plutôt tout ce qui va autour de ça aussi. Donc la culture geek, c'est aussi une histoire. Alors, j'espère que je vais pas me faire d'ennemis en disant ça, mais c'est aussi une histoire de solitude. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais ado. Il y avait aussi une grande solitude. Moi, j'étais un adepte de jeux de rôle, par exemple, de jeux de rôle papier, hein, sur table. À part les potes avec qui j'en faisais, on était vraiment montré du doigt. Enfin, il y avait vraiment un côté freaks, comme on disait aussi à un moment donné. Et je pense que la culture geek, par exemple, c'est vrai qu'il y a Batman dans la première scène du spectacle, qui est vraiment la première scène, et moi j'y tenais beaucoup que ce soit la première scène. Parce que j'avais envie de montrer ce que c'est que deux personnes intéressées par un sujet de contre-culture qui, en fait, quand on décortique Batman et Superman ou Wolverine, en fait, ça raconte des choses sur la société. Parce que ça parle des puissants, en fait. Et des puissants, et qu'est-ce qu'on peut faire contre les puissants? Est-ce qu'on est un super puissant? Est-ce qu'on est contre le super puissant? Est-ce qu'on est un super méchant? Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, voilà, Batman, ça raconte un truc sur la société capitaliste énorme. Enfin, je veux dire, ce milliardaire qui d'un coup se sent pas légitime et part. Et qui est un psychotique, en fait. Enfin, je veux dire, Batman, il est aussi fou que le Joker. Enfin, je suis en train de refaire la scène, là, désolé. Mais voilà, c'est vrai que Wolverine et Spider-Man, c'est des super-héros prolétaires. Je veux dire, ils veulent pas de leur pouvoir. Il y en a un qui passe son temps à gagner sa vie en faisant des matchs de boxe dans des cages, et l'autre qui est reporter, qui gagne 2 francs 6 sous pour se payer un appartement minable dans New York. Donc ça peut raconter des choses vachement intéressantes. Je voulais vraiment qu'on voit des geeks qui développent des théories vraiment intéressantes, super profondes, sur des sujets qui font rire, voire certaines personnes vont même se pincer le nez en disant que c'est vraiment inintéressant possible, alors qu'en fait non, comme tout ça peut être très intéressant en fait, quoi.
Moi, je trouvais que la description justement des personnages, même pour quelqu'un qui connaît pas, ça permet quand même de situer, comme par exemple des personnages de théâtre. Si on n'a pas de connaissances sur des classiques, eh ben, selon le descriptif qui est fait. Et là, je trouvais que même moi, je connaissais, mais je me suis dit que pour une personne qui ne connaissait pas du tout, ça pouvait quand même être clair.
Je suis assez d'accord parce que moi, je connais Batman, je connais un peu Wolverine, mais je n'ai pas vu grand-chose. Mais du coup, j'ai appris. J'ai appris à voir autrement en fait, les comics. Et du coup, ce que dit Guillaume sur Batman ou Wolverine, même Superman d'ailleurs, voilà. Et c'est vrai que étant pas dans le truc, je m'étais jamais vraiment posé la question, voilà. Et du coup, je trouve c'est vachement intéressant en fait. C'est un peu comme les contes de fées qu'on explique un peu en disant, vous voyez là, c'est peut-être un petit peu cradingue, ça c'est peut-être parce que ça veut dire ça veut dire ça, voilà.
Je pense qu'effectivement les comics, les jeux vidéo aussi, plein de choses, c'est en fait un peu les mythologies, les nouvelles mythologies modernes, j'ai envie de dire. C'est vrai, effectivement, les contes de fées, c'était des trucs qu'on racontait aux enfants, sauf qu'en fait, derrière, il y avait des archétypes psychologiques ou même des archétypes sacrés, profanes, tout ce qu'on veut, sexuels, qui étaient hyper importants pour la construction de la société, en fait. Et je pense que, dans une certaine mesure, la contre-culture geek, elle a, alors pour combien de temps, on verra, ça se trouve, dans 50 ans, on n'entendra plus parler de ces représentations-là. Mais en tout cas, là, on sent bien que ça raconte quelque chose du monde.
Merci à eux pour cette interview. C'est encore Marion et François qui ont préparé ça, avec Guillaume et Samuel qu'on peut entendre parler. Guillaume qui a mis en scène cette scène-là. C'est marrant parce qu'il parle de deux personnes qui dialoguent sur Internet. Ça me rappelle un peu cette discussion que j'avais entendue entre deux amis dans la rue. Ça ressemblait à un truc du genre...
T'as des nouvelles choses? Elles vont vachement bien avec ton sac. Tu les as eues où?
Sur Internet, soldé à 79,99% de réduction, t'imagines?
Et ton cum, toujours câblot sur la console?
Eh oui, je suis transparente. Qu'il fasse gaffe. Il est sur un siège éjectable. J'ai 1576 matchs sur Tinder. J'ai pas de problème pour pécho.
Tu m'étonnes avec les photos que t'as mises.
Et toi alors?
Avec ton mec, t'en es où?
Le mien, il claque toute sa thune dans les figurines Warhammer. Et en plus, il blinde toute la place dans l'appart avec ses plateaux de jeux et les cartons de pizza. Je n'en peux plus, JPP!
Tu sais pas, la dernière, il m'a offert un déguisement de Sakura pour aller à la Japan Expo.
C'est qui, cette meuf?
C'est le personnage qui fait que de pleurer dans Naruto.
Tu te rends compte? Il a fallu que je me tape les 500 épisodes. En échange, je lui ai fait regarder les 1500 épisodes de One Piece. Et en plus, ce con-là, il m'a planté mon hello sur Litchis, sur mon site d'échecs en ligne.
Merci beaucoup, Valérie Rémarque, pour cette petite chronique humoristique. Pour ceux qui ont les références un peu. Et c'est déjà la fin de l'émission d'Auditeur Partagé, mais ne vous inquiétez pas, d'autres contenus sont à venir après nous, jusqu'à 22h, on rappelle, il y a le Bonjour Turbine après nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs et aux chroniqueuses. Merci à la régie, bien sûr. Merci aux personnes interviewées. Et je vous laisse entre les mains de Thomas, encore une fois. Mais ne vous inquiétez pas, il est tout aussi sympa.